Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, Mondial Sport en direct jusqu'à 22h, temps universel. L'émission fera la part belle au football féminin ce soir, il le mérite et c'est d'actualité. Le Mondial 2019 démarre en France dans 5 jours, le succès populaire espéré se traduit déjà dans les ventes de billets, nous expliquera le patron du comité d'organisation. Gros plan à suivre également sur la préparation des Camerounaises qui rêvent de faire mieux que leur 8e de finale il y a 4 ans au Canada. France-Bolivie, match amical des Bleus ce soir à Nantes, victoire tranquille 2-0 avant de se replonger dans le bain des éliminatoires de l'Euro 2020. Martin Guez sera avec nous dans un instant. Si les supporters de Liverpool ne marchent jamais seuls, ils ne font jamais la fête seuls non plus. Des dizaines de milliers de fans des Reds ont célébré comme il se doit le titre en Ligue des Champions dans les rues de Madrid. Pierre Chaperon s'est frayé un petit chemin parmi eux pour recueillir leurs sentiments. Enfin, Roland Garros, Federer et Nadal en quart de finale et en sprintant. Beau marathon en revanche pour le bras de fer du jour entre Stan Wawrinka et Stefanos Tsitsipas. Le Suisse l'emporte après plus de 5 heures de jeu. Résumé de la journée sur les cours avec Frédéric Suto. Allez, avant de se concentrer sur le mondial féminin, faisons une petite place d'abord aux hommes et à l'équipe de France de Didier Deschamps qui a repris du service ce soir en vue de la suite des éliminatoires de l'Euro 2020 dans quelques jours en Turquie et en Andorre. Et histoire de se remettre en jambes, les Bleus ont affronté la Bolivie à Nantes, un adversaire inédit à la Beaujoire où vous vous trouvez. Martin Guez, bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Un match qu'on va qualifier de tranquille pour les Bleus, victorieux, qui l'emporte 2-0 et qui en plus ont le sens de la fête.
Ben oui, des Bleus, la fête était prévue. La fête ici a été belle. Maintenant, c'est un petit peu bizarre pour moi de vous parler puisque le stade est complètement vide. Il n'y a plus personne dans ces 35 000 places. Et le service technique est pas loin de me mettre dehors, mais il y a encore une bonne demi-heure. Il était archi plein ce stade. Et, il a chanté, il a fait la hola dès les premières minutes. On sent vraiment que quand l'équipe de France sort de Paris, sort de la capitale, le public est vraiment au rendez-vous. En région, ils étaient là plus de 35 000. Donc, stade archi comble pour voir des Bleus très appliqués rentrer bien dans leur match. La première période a été totalement à l'avantage de l'équipe de France qui a frappé 10 fois et qui a marqué 2 buts dès le tout début de la rencontre à la 4e minute par Thomas Lemar du gauche qui a lobé le gardien sur une belle passe d'Antoine Griezmann. Ces deux-là se sont parfaitement entendus, ils se connaissent par cœur, hein, les deux gauchers de l'Atlético de Madrid. Et Thomas Lemar, avant la pause, qui a réalisé un centre du droit, repris victorieusement cette fois par Antoine Griezmann qui a marqué son 29e but chez les Bleus. Une première période parfaite, une deuxième plus tranquille, pas beaucoup d'occasions, mais le gardien bolivien s'est vraiment illustré. On en donc resté à 2-0. Seule petite ombre au tableau, et bien la blessure de Kylian Mbappé. Visiblement, il n'était pas vraiment à son aise dans cette position de numéro 9 en première période et il a été touché à la cheville, il est sorti à la pause et on l'a vu revenir plutôt souriant après les vestiaires sur le banc. Donc ça devrait quand même aller pour la semaine prochaine et le match en Turquie.
Alors Kylian Mbappé, vous l'avez dit un petit peu en retrait ce soir, mais les joueurs revanchards, on va dire, eux se sont plutôt montrés.
Eh ben oui, le premier d'entre eux, c'est Thomas Lemar. On le sait, il a fait une saison très très compliquée en Espagne, recruté quand même pour 72 millions d'euros. C'est un très très gros transfert pour l'Atlético. Il avait été élu pire recrue de l'année. Et eh bien ce soir, il était partout. Il a fait une première période de très haute volée. Thomas Lemar, il a pas mal dézonné de son côté gauche. Il a percuté. Il est toujours juste techniquement. Et il a donc marqué un but en tout début de rencontre, puis ensuite réalisé une quasi passe décisive. Puis en deuxième période, il était encore très actif. Et on se demande comment il a fait pour pas mettre un doublé. Il avait fait une superbe tête sur un centre de Florian Thauvin que le gardien a miraculeusement sorti. Thomas Lemar est sorti du terrain à la 66e minute, très applaudi, une belle ovation pour lui, et remplacé par Kingsley Coman, un autre revanchard. Lui, il n'est pas champion du monde, Kingsley Coman, et il s'est bien montré depuis son entrée. Dès qu'il est rentré, il a frappé tout de suite le joueur du Bayern Munich. Encore une belle claquette du gardien adverse Carlos Lampe, on a quasiment vu que lui. Puis il a encore réalisé des débordements, il a aussi frappé du gauche, encore un arrêt du gardien. Et puis le troisième revanchard, c'est Florian Thauvin. Lui, il est champion du monde, mais il a fait une saison très compliqué du côté de Marseille, il était même remplaçant ces dernières semaines. Et bien lui aussi, le gaucher, était un petit peu partout ce soir et il s'est procuré des belles occasions, il a centré, il a permuté. Enfin bref, ces trois-là sont Thomas Lemar, Kingsley Coman et Florian Thauvin sont au postule pour une place de titulaire la semaine prochaine face à la Turquie.
Alors vous l'avez évoqué, il y a un très bon gardien bolivien hein, ce soir dans les buts de leur équipe. La Bolivie, qu'est-ce que ça valait ce soir avec ce gardien?
Eh ben ça valait pas grand chose la Bolivie pour être sérieux. C'est un petit peu dur à dire, hein. C'était la première fois, on les connaissait pas les Boliviens, c'est la première fois que l'équipe de France les rencontrait. Ils ont déjà participé trois fois à la Coupe du Monde, la dernière fois c'était en 1994, ça commence à remonter, c'est une des nations d'Amérique du Sud les moins connues, la Verde comme on l'appelle, mais il y avait pas mal de supporters ici, c'était un petit peu étonnant, on les a vus avec leur beau drapeau de couleur jaune, rouge et verte. En première période ils ont été totalement étouffés, ils ont pas du tout existé, et puis en deuxième leur gardien Carlos Lampe s'est vraiment fait un nom, on a vu que lui, il a sorti un nombre d'arrêts incroyables, puis vraiment des très beaux arrêts, du pied souvent très à l'aise au sol. Il a dégoûté les joueurs de l'équipe de France qui avaient pris l'habitude de mettre 4 buts à tout le monde ces dernières semaines, comme face à l'Islande ou face à la Moldavie. Et bien là on est resté à 2-0, donc le gardien Carlos Lampe qui a sauvé son équipe et qui les a gardés à flot. Plutôt c'est peut-être sur lui qu'ils vont devoir s'appuyer, la Verde, la Bolivie, puisqu'ils rentrent le 15 juin prochain, ils feront le match d'ouverture de la Copa América, ils affronteront le Brésil. Là aussi ça risque d'être compliqué pour eux.
Merci beaucoup Martin Guez, ne vous faites pas mettre dehors, hein. On s'en voudrait. Allez, vous allez certainement aller recueillir des réactions ce soir des Bleus, donc dans ce match qui a été remporté donc par l'équipe de France 2-0 à la Beaujoire à Nantes. Elle s'appelle Etty, et vous l'apercevrez peut-être au détour d'une photo dans les prochaines semaines. Ça n'est pas une joueuse ou une entraîneur, mais un poussin, la mascotte du Mondial Féminin 2019, qui démarre vendredi prochain à Paris. Cette 8e édition est la première organisée en France depuis sa création en 1991. 24 nations, 9 villes hôtes pour cet événement qui va donner beaucoup de projecteurs et d'accélérateurs à la notoriété du foot féminin. De ce point de vue, c'est déjà assez bien parti, puisque les chiffres de la billetterie sont très encourageants, au-delà du nombre de téléspectateurs spectateurs espérés dans le monde. Erwan Leprévost, le directeur du comité d'organisation, fait le point sur ses ventes de billets avec Eric Chorin.
Le président Infantino et le président Le Graët nous avaient donné des objectifs ambitieux. 1 milliard de téléspectateurs, on va y être. Il y a un pari qu'on a pris depuis 2014, qui est une Coupe du Monde familiale, populaire et très festive. Et on le retrouve avec le remplissage des stades, qui est impressionnant à aujourd'hui. Avec initialement, on pensait avoir un public très franco-français, 90% des spectateurs. Or, c'est plus le cas. On a plus de 40% des gens qui viennent du monde entier pour assister au match de la Coupe du Monde. Donc, il y a un engouement populaire qui est extraordinaire, qui va dépasser largement le Canada. De par la section géographique, le Canada, vous aviez les Américains et les Canadiens qui étaient fortement présents. Nous, aujourd'hui, on a le monde entier qui vient en France. On a tous les pays qui sont représentés, avec qui déploient des supporters. Alors, on parle évidemment des USA, mais il y a aussi les Pays-Bas qui vont se déplacer en nombre. L'Allemagne, qui est également fortement présente. Aujourd'hui, on prend un exemple. On a un Angleterre-Écosse à Nice. On a plus de 14 000 spectateurs, dont 4 000 Anglais et 4 000 Écossais. 14 000 spectateurs à Nice, c'est extraordinaire. La moyenne de ce club en Ligue 1, c'est 18 000. On avait un objectif de remplir 57% des stades, en considérant que les matchs de l'équipe de France seraient à guichet fermé. Ce seraient les seuls. Aujourd'hui, on a 7 matchs qui sont déjà à guichet fermé. On en a 5 prochains matchs qui vont bientôt être annoncés également à guichet fermé, vu le rythme des ventes. Donc, on avait un objectif qu'on trouvait ambitieux, qu'on a déjà dépassé. On est aujourd'hui à plus de 800 000 billets, quasiment 800 000 billets. Donc, on est à plus de 150 000 billets au-delà de l'objectif. Et ça continue. Chaque jour, on vend entre 3 et 5 000 billets, ce qui est extraordinaire. Les médias nous aident beaucoup. L'annonce de la liste de Corinne Diacre nous a donné un coup de projecteur énorme sur le football féminin en France et a enfin réveillé les Français, puisque l'international avait déjà acheté ses billets depuis longtemps. Donc là, maintenant, la France se réveille, achète ses billets et vient remplir ses stades. Donc l'objectif est dépassé et on a bon espoir d'atteindre le million de spectateurs dans nos stades.
Est-ce que vous avez une idée, justement, un petit peu de la sociologie des acheteurs? Est-ce que c'est vraiment beaucoup de familles? Vous avez des achats uniques?
Non, on a pas d'achat unique. On a aujourd'hui un panier moyen qui est de 3,4 spectateurs. Donc une personne achète en moyenne 3,4 billets par match. Quand on peut les adresser sur le public très franc-français qu'on le connaît bien, c'est vraiment des familles qui viennent au stade voir les matchs de la Coupe du Monde. C'est pour 20% d'entre eux des gens qui ne sont jamais allés au stade. À l'international, après, c'est un vrai public de supporters, mais un public de supporters très 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 familial qui va venir au stade.
Une question sur la logistique et notamment sur l'accueil des équipes, oui. Des 24 sélections, 52 matchs. Il y a des différences là quand même avec une Coupe du Monde masculine, elles sont un peu plus itinérantes, hein, les équipes.
Ouais, c'est la différence qui existe aujourd'hui. Pour moi, l'unique différence qui existe entre une Coupe du Monde masculine et une Coupe du Monde féminine, c'est que là où sur une Coupe du Monde masculine, les équipes sont en camp de base et se déplacent uniquement les veilles de match, là les équipes vont de ville en ville. Après, ça a bien évolué depuis 2015, puisque maintenant quasiment toutes les équipes ont un hôtel qui leur est dédié, là où en 2015 il y avait entre 2, 3 ou 4 équipes par hôtel. Donc c'est la différence. Maintenant, Elle nous plaît cette différence parce qu'elle permet à chacune des villes hôtes de voir entre 9 et 11 sélections dans son territoire en fonction du nombre de matchs qui vont avoir lieu, soit en match de groupe, soit en match à élimination directe. Et ça permet aux villes de s'approprier l'ensemble des pays qui vont participer à la Coupe du Monde. Donc on est aujourd'hui dans une école, mais dans chacune des écoles, chacune des villes, ça permet également de faire la promotion de ces territoires et de raconter l'histoire des pays qualifiés.
Ça veut dire que toutes les équipes, y compris l'équipe de France, ne sont pas enfermées comme les garçons peuvent l'être des fois dans leur camp de base.
Exactement. Elles vont aller, et c'est pour ça aussi qu'on a voulu créer des animations avec les villes, avec les pays participants sur des activités un peu sociales comme on l'a fait l'été dernier en Bretagne où certaines équipes sont allées à la rencontre des écoles ou ont découvert la culture bretonne ou ont participé au nettoyage des plages. Là aussi vous avez des actions avec chacune des villes, avec les pays qui ont accepté de le faire. Donc aujourd'hui les 24 équipes feront au moins une activité avec chacune des villes et ça permet également de créer un lien avec les populations locales.
Nous qui avons l'habitude de travailler en Afrique hein, sur RFI, est-ce qu'il y a des contacts un peu plus difficiles avec certaines sélections? Est-ce que c'est plus difficile d'organiser leur venue ou est-ce qu'avec tout le monde ça se passe bien ou faut accompagner certains pays un peu plus que d'autres?
Alors, c'est notre cœur de métier. Nous, on est là pour mettre les 24 équipes dans les meilleures conditions et donc on y passe du temps avec grand plaisir pour les accompagner. Certaines sélections viennent pour la première fois participer à une Coupe du Monde. Donc pour elles, c'est nouveau l'univers de la FIFA et les règlements à respecter. Mais les équipes du comité d'organisation sont pleines de bienveillance et les accompagnent au mieux. Donc oui, certaines sélections, l'Allemagne, les USA, pour ne pas les citer, eux, ont l'habitude et c'est lié à l'histoire et à l'expérience qu'elles ont derrière. Donc elles connaissent parfaitement les règlements FIFA. Toutes les autres fédérations nous posent des questions régulièrement et régulièrement on leur répond, on les accompagne. Mais pour toutes les sélections, c'est un vrai plaisir de venir en France et pour nous, c'est un vrai plaisir de les accueillir.
Erwan Leprévost, le directeur du comité d'organisation du Mondial féminin avec Eric Chourin et Laura Martel du Service France. Venons-en à l'une des équipes africaines présentes à ce Mondial. Elles sont trois au total. Les Nigériennes, les Sud-Africaines et la sélection du Cameroun. Bonsoir Thomas de Saint-Léger.
Bonsoir Christophe.
Gros plan justement ce soir sur ces Camerounaises à une semaine de leur entrée en lice.
Une grosse semaine, oui. Elles débuteront par un match contre le Canada lundi 10 juin à Montpellier. En attendant, les Lyonnes font leur griffe en Espagne. Elles ont par exemple battu le club de Levante en match amical. La question qu'on se pose tous ici, Christophe, c'est comment se sont-elles préparées? Qu'espèrent-elles également de cet été en France? Joël Wadem les a rencontrées juste avant leur départ du pays.
À quelques jours du démarrage de la Coupe du Monde, c'est une ambiance bon enfant qui règne au sein des Lyonnes indomptables. L'avant-centre Alexandra Takunda pour sa première sélection à l'équipe nationale senior est particulièrement enthousiaste.
J'étais du côté de la Jordanie en 2016 pour la Coupe du Monde. J'étais junior et maintenant je suis senior. Âgé de 19 ans, je suis la plus jeune du groupe. J'ai été retenu pour cette Coupe du Monde grâce aux fruits de mon travail et aux confiances que les coachs m'ont fait. Tout ce que je peux promettre au peuple camerounais, c'est de mouiller le maillot et hisser très haut le drapeau de notre pays.
Pour la capitaine Christine Mani, l'équipe fait un effort pour ne pas se mettre trop de pression.
L'ambiance dans le groupe, tout se passe bien. On essaye de ne pas trop penser à l'événement qui arrive, pas trop se focaliser dessus pour avoir une pression plus grande. C'est vrai que la pression, elle est là, mais on essaye d'être un peu plus à l'aise quand on travaille. On essaie d'être relax, mais en restant sérieuse.
Le Cameroun jouera sa première rencontre face au Canada. Christine Mani estime que cette rencontre ne sera pas du tout facile.
On va prendre adversaire par adversaire. Déjà, le 10, c'est contre le Canada. On va se préparer par rapport à ça. Le Canada, c'est une très bonne équipe. On avait joué le Canada en 2015, mais je pense qu'après 4 ans, beaucoup de choses aussi ont changé. À chaque adversaire, on va prendre les matchs comme ils viennent.
Le Cameroun, après avoir terminé en 8e de finale à la Coupe du Monde de 2015, ambitionne d'atteindre au moins cette fois le stade des quarts de finale. C'est du moins le vœu d'Alain Djemfa qui pense que ses filles ont la capacité de réaliser cet objectif.
Parlant des ambitions, je crois que le plus important déjà c'est de sortir du premier tour et maintenant aller un peu plus loin, c'est-à-dire pourquoi pas les quarts de finale, pourquoi pas mieux. Je crois que c'est étant sur place que les ambitions progressivement vont être évaluées. Et parlant des forces du Cameroun, c'est déjà l'état d'esprit, c'est le Cameroun. Vous savez, chez nous, c'est d'abord l'état d'esprit et ensuite la force physique et enfin les dispositions technico-tactiques que nous sommes en train de mettre en place.
Après avoir été la révélation de la Coupe du Monde de 2015, les Lyonnes indomptables, à travers leur deuxième participation à cette compétition, voudraient une fois encore entrer dans l'histoire. Le rêve est permis. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et notez d'ores et déjà que Canada-Cameroun sera retransmis en intégralité sur RFI ce 10 juin à partir de 19h, temps universel. De même que Cameroun-Nouvelle-Zélande le 20 juin, également à Montpellier. Ce sera le troisième match des Lyonnes indomptables. Et bien sûr, tous les matchs des Bleus, à commencer par France-Corée du Sud, vendredi au Parc des Princes à partir de 19h TU. C'était assez prévisible. Madrid a vu rouge, tout rouge hier soir à l'ultime coup de sifflet après la finale de la Ligue des Champions. Le sixième sacre de Liverpool aux dépens de Tottenham, 2-0, a évidemment provoqué le bonheur des Reds de Jürgen Klopp, récompensé autant pour leur saison européenne que pour leur superbe parcours en Première Ligue, même dénué de titres. Mais inutile de vous dire que la capitale espagnole a également bien ressenti les effets de la nuit de folie, surtout lorsqu'elle est animée par des supporters du club vainqueur. Reportage Pierre Chapon.
Que l'on soit à Liverpool, au Metropolitano de Madrid ou dans le centre-ville de la capitale espagnole, avec les supporters liverpooliens, tous les matchs commencent avec le célèbre You'll Never Walk Alone. Dans la touffeur des premiers jours de canicule madrilène, oui, l'alcool a coulé à flot tout au long du week-end. Et quand est arrivé le coup de sifflet final, synonyme de 6ème Ligue des Champions, c'est une douce euphorie qui s'est emparée de Madrid, où au final près de 80 000 Anglais, avec ou sans tickets, se sont déplacés. Résultat, sur les coups de 23 heures, les cris de joie ont résonné comme une délivrance. Et pour Yannick, maillot du club sur les épaules, ce sacre est un aboutissement.
C'est de la pure folie, je pense que nous le méritons cette saison après avoir joué de malchance dans le championnat en finissant à un point derrière Manchester City. Vous savez, j'étais frustré de ne rien gagner cette saison et donc je pense que Liverpool méritait, les supporters de Liverpool, l'équipe, la ville, le monde, tous méritaient de l'emporter. C'est incroyable mon ami.
Dans ce Madrid à la sauce anglaise, les ruelles se sont transformées au fur et à mesure en faubourg de Liverpool, où les maillots rouges étaient la tenue obligatoire pour faire la fête. Pour Georges, la cinquantaine, le plus important était de savourer, au vu du chemin parcouru, à la lumière de la saison écoulée.
C'était bien, en tout cas mieux que la saison dernière. Lors de notre dernière victoire à Istanbul en 2005, le niveau des deux équipes était proche. Ils avaient dû aller au pénalty. Là, il y a une plus grande différence. Le meilleur joueur, Alisson, il a vraiment réalisé une bonne performance.
De l'euphorie aussi au Metropolitano et chez les joueurs. 14 ans après, cette génération emmenée par l'entraîneur Jürgen Klopp a enfin son trophée. Et l'attaquant sénégalais Sadio Mané était tout à sa joie au sortir des vestiaires.
Dans les vestiaires, vous avez entendu ma voix, c'était chaud là-bas, il n'y a même pas d'espace. Alcool partout, avec les gens là, musique forte, c'est juste incroyable, incroyable. On est vraiment heureux, ça n'a pas été facile, ça a été un long chemin, mais on n'a jamais baissé les bras et on a toujours continué à y croire. Et au final, on a été récompensé.
La nuit fut courte, mais elle fut belle pour tous les acteurs de cette finale. Après l'organisation de la Copa Libertadores en décembre dernier, Madrid a de nouveau réussi son pari. Et tous ici garderont en tête l'image de belle communion et d'un esprit de fête, loin, très loin de la peur de débordement qui régnait en début de semaine, notamment dans la presse. Pierre Chapron, Madrid, RFI.
Et Liverpool étreindra son titre européen le 14 août prochain à Istanbul à l'occasion de la Supercoupe d'Europe contre Chelsea, vainqueur de la Ligue Europa. On repart en Afrique, Thomas, avec avant la CAN, la compétition qui se joue en ce moment sur le continent, la Coupe de la COSAFA. Elle met aux prises à Durban les nations d'Afrique australe et ce soir, les affiches des demi-finales sont connues.
Oui, ce sera d'un côté Zimbabwe, Zambie, de l'autre Lesotho, Botswana, le Botswana tombeur cet après-midi au tir au but des hôtes sud-africains représentés, précisons-le, par leur équipe Espoir, les grands préparant bien sûr la CAN. Une chose est sûre, ce nouvel échec ne va pas faire remonter la cote d'amour de l'équipe nationale. Déçue par les résultats de ces dernières années, les supporters locaux sont de moins en moins fanas de leur Bafana. Reportage à Durban, Claire Brajoulès.
Dans les travées du stade de Durban, les supporters venus habillés et maquillés aux couleurs de leur équipe sont rares. Winnie en fait partie et quels que soient les résultats des Verts et Jaunes, elle continuera toujours à les soutenir.
Je suis une de leurs plus grandes fans, je ne perds jamais espoir. Je suis contente pour mon pays et je vais continuer à venir au stade car j'aime les Bafana Bafana.
Mais cet enthousiasme est peu partagé. Il s'agit pourtant d'une des plus grosses équipes de la région, possédant des infrastructures héritées de la Coupe du Monde 2010 et un championnat national de qualité. Mais rien n'y fait. Après avoir raté les qualifications pour la dernière Coupe du Monde en Russie, les Bafana Bafana n'ont décroché que de justesse leur ticket pour la CAN. Toulani est fatigué de ces résultats médiocres.
J'ai été déçu tellement de fois. Leurs performances sont toujours plus mauvaises. On a besoin d'un changement. J'aimerais que les Bafana Bafana ressemblent à ceux d'avant, les anciens. Aujourd'hui, ils se contentent de faire leur boulot pour gagner leur salaire à la fin du mois. Ça ne vient pas du fond de leur cœur.
Et cette lassitude se ressent dans les stades, quasi vides. Lors d'un match à domicile contre le Nigeria l'année dernière, il y avait presque autant de supporters des deux équipes dans les tribunes. Alors même s'il n'est pas totalement conquis, Samele veut être là pour soutenir les Boys.
Vous savez, quand on n'est pas là, ils peuvent perdre espoir, se dire que les Sud-Africains n'aiment plus les regarder, ce sera pire. Je pense que c'est important que l'on continue à venir en nombre pour les soutenir.
Nick Said, journaliste sportif, constate aussi ce désamour dû à différentes raisons.
Pas de doute, la relation est devenue tendue. Le public sud-africain a presque peur de l'échec. Il ne veut pas s'engager avec cette équipe qui inspire peu la confiance pour gagner des matchs. Pourquoi investir tous ces efforts, ces émotions, cet argent pour cette équipe qui ne cesse de les laisser tomber? Les gens en ont aussi assez de la fédération nationale et de la façon dont elle est gérée. Enfin, dans les années 90-2000, il y avait beaucoup de figures dans cette équipe, des icônes. Et on ne voit plus cela aujourd'hui. Il n'y a plus de connexion entre les joueurs et les supporters.
Alors pour garder espoir, Kélani se concentre sur la prochaine échéance, la CAN, et espère que l'équipe saura se dépasser.
Je pense qu'ils vont bien s'en sortir. On a plutôt de bons joueurs et aussi un bon entraîneur. Il est vraiment bien. Il faut juste qu'ils trouvent leur voie. Mais c'est notre équipe nationale. Alors si on arrête de les soutenir, qu'est-ce qu'on va devenir ?
À voir donc si les performances des Bafana Bafana en Égypte seront suffisantes pour reconquérir le public sud-africain. Claire Barjolès, Durban, RFI.
Et pour être complet sur l'actualité du football africain, Christophe, deux rendez-vous à noter sur votre agenda. Demain, Sénégal-Nigeria, huitième de finale du mondial des moins de 20 ans. En Pologne, mardi, le Mali défiera l'Argentine.
On repart rapidement au Cameroun pour parler de cyclisme. Cette fois, c'est un enfant du pays qui a remporté la deuxième étape du Tour national.
Clovis Kamzong, vainqueur à Nongae Boko, le coureur du SNH Vélo Club, a devancé de 3 secondes l'Ivoirien Issiaka Cissé. Au général, l'habituel capitaine de route de l'équipe nationale camerounaise se replace. Il est troisième à 4 secondes du maillot jaune, le bulgare Radoslav Konstantinov. Demain, troisième étape, Yaoundé et Boloa, 151 km.
Et puis rapidement, le Giro, victoire finale de Richard Carapaz, l'équatorien, dans le Tour d'Italie au classement général définitif. Il compte 1 minute 5 d'avance sur Vincenzo Nibali et 2 minutes 30 sur le Slovène Primoz Roglic. La séquence de ce Mondial Sport, Roland Garros, pile à mi-chemin de la quinzaine, on commence à voir un petit peu plus clair dans les tableaux. Et on rejoint pour mieux comprendre ce tableau Frédéric Suto. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
On a nos envoyés spéciaux sur la terre battue. Avant toute chose, Frédéric, la nuit est tombée sur Roland Garros. Benoît Paire et Kei Nishikori n'ont pas pu finir leur huitième de finale.
Oui, il était 21h30 hein, quand le match a été interrompu par l'arbitre, faute de luminosité sur le court Suzanne Lenglen. Avantage, avant la reprise du match demain, avantage à Kei Nishikori. Il mène 2-7 à 1, 6-2, 6-7, 6-2. Benoît Paire, qui dispute son premier huitième de finale à Roland-Garros, avait été battu en 5-7 par le japonais ici même il y a un an. Il a manqué de constance aujourd'hui. Hein. Il n'y a que lors de la deuxième manche, superbe, qu'il est parvenu à tenir la cadence et à s'arracher 10 points à 8 dans le jeu décisif. Il a relancé le match, mais il est retombé ensuite dans ses travers au troisième set. Benoît Paire, qui n'a plus le droit de perdre un set et qui devra en gagner deux demain pour se qualifier.
Alors, si Benoît Paire et Kei Nishikori n'ont pas pu finir, c'est qu'ils sont rentrés sur le court très tard. Le match précédent a duré plus de 5 heures.
Et un duel formidable. Le plus beau match du tournoi, assurément, pour l'instant, ce huitième de finale en plein soleil entre Stan Wawrinka, le Suisse, et Stefanos Tsitsipas, le Grec. Ils se sont rendus coup pour coup pendant 5 heures et 9 minutes. Il a fallu 5-7 bien entendu pour les départager. Stan Wawrinka, vainqueur de Roland Garros en 2015, qui a eu le dernier mot, 8 jeux à 6 dans la dernière manche. Patrick Mouratoglou était aux premières loges, lui qui a dans son giron, dans son académie, Stefanos Tsitsipas, 20 ans. Il s'est régalé, même si son poulain a perdu.
Les deux joueurs ont livré un combat incroyable. Ils ont tout donné et c'est peut-être l'expérience de Stan qui a payé à la fin. Un match comme ça, ça se joue aussi au réalisme sur quelques points. Il a été moins réaliste que Stan. Il a eu 27 balles de break, il en a converti 5. Donc le match, il se joue probablement là-dessus parce que il a des occasions au cinquième, mais bon, s'il suffisait de le dire pour le faire, ce serait facile. c'est des moments où l'émotion est au sommet et on la gère pas toujours comme il faut, mais c'est l'expérience qui aide. Ça fait partie des très grands matchs des grands chelems. Des matchs qui se finissent avec des scores incroyables et avec deux combattants qui veulent rien lâcher pendant plus de 5 heures.
Ouais, Patrick Mouratoglou avec Eric Mamrut en 2 jours. Patrick Mouratoglou revu ses deux protégés, hein, Serena Williams et Stefanos Tsitsipas, se faire éliminer.
C'est donc Stan Wawrinka qui file en quart de finale.
Oui, lui qui a failli arrêter le tennis fin 2017 après 2 opérations au genou. Il aura mis 1 an et demi pour retrouver son niveau. Stan the Man, comme on le surnomme, s'il avait encore des doutes sur sa condition physique, il peut être rassuré après cet énorme combat. Lui qui avait déjà dû batailler sur 2 jours pour éliminer au tour précédent le Bulgare Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka, qui a tenu mais qui a laissé des plumes.
C'est clair que voilà, je me suis prouvé à moi-même que physiquement j'étais bien, j'étais présent. Enchaîné 3 jours, des gros matchs, grosse intensité avec un match comme aujourd'hui en 5-7, c'est clair que ça laisse des traces, ça c'est sûr. Mais voilà, je suis content du résultat pour l'instant et on verra comment je vais récupérer d'ici là. C'est clair que, comme je l'ai dit, ça laisse beaucoup de traces. Un match comme ça, d'une telle intensité, il va falloir récupérer pour mardi.
Stan Wawrinka qui en quart de finale affrontera mardi son compatriote Roger Federer.
Oui, et avant le retour de Roger Federer cette année à Roland-Garros, hein, son dernier match ici remontait à 2015. Un quart de finale perdu justement face à Stan Wawrinka. Alors là nous sommes en 2019, certes Roger Federer a 37 ans, mais ses retrouvailles avec la terre battue parisienne se passent à merveille. En 4 matchs depuis dimanche dernier, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'a pas perdu un set. Dernière victime en date ce dimanche en 8e. L'Argentin Leonardo Maier, oui, tous les voyants sont au vert pour Roger.
Très frais même. Honnêtement, ça s'est très bien passé jusqu'à présent. Je suis content avec le jeu. Le niveau de jeu, il est bien. Physiquement, il n'y a pas de problème du tout. Alors voilà, je peux vraiment être soulagé parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de joueurs dans le tableau qui arrivent quelquefois dans le 3e, 4e, 5e tour qui sont juste cassés. Et pour moi, de mon côté, ce n'est pas le cas. Alors je peux vraiment tout laisser sur le terrain pour ce quart de finale important.
Roger Federer, toujours au micro d'Éric Mamrut. En cas de victoire en quart, le Suisse pourrait, qui sait, retrouver l'Espagnol Rafael Nadal en demi. Car Rafa, lui aussi, se balade depuis le début du tournoi. Il a validé l'Espagnol cet après-midi facilement face à Juan Ignacio Londero. Son billet pour les quarts de finale.
On passe au tableau féminin, Frédéric. Là aussi, on connaît les premières qualifiées pour les quarts de finale.
La Croate Petra Martic poursuit sa route après avoir écarté au 3e tour la numéro 2 mondiale, la Tchèque Karolina Pliskova. Elle a confirmé en 8e face à l'Estonienne Kaya Kanepi. En quart de finale, Petra Martic retrouvera la Tchèque Markéta Vondrousova. Se sont qualifiées aussi ce dimanche Johanna Konta, la Britannique, et Sloane Stephens, l'Américaine, finaliste l'an passé. Elle a sorti l'Espagnol Garbine Muguruza, vainqueur ici en 2016. Demain, lundi, Christophe, suite et fin de ses 8e de finale, avec notamment sur le court, côté messieurs, Novak Djokovic, Alexander Zverev face à l'Italien Fabio Fognini, et puis Gaël Monfils, le Français, qui va défier l'Autrichien Dominic Thiem, qui était arrivé, Dominic Thiem, en finale il y a 1 an.
Et puis à Roland-Garros, il y a aussi le tournoi junior qui a débuté ce dimanche, et vous nous parlez d'une Burundaise.
Oui, Sada Nahimana. Elle a 18 ans, c'est son père qui l'a initiée au tennis au Burundi. Elle est passée par le Kenya, elle s'entraîne aujourd'hui au Maroc, Sada Nahimana, qui a été éliminée dès le premier tour de ce tournoi junior par une Américaine, mais elle croit en son avenir, en son destin. Eric Mamrut est allé à sa rencontre, Sada Nahimana, qui a une idole, vous allez le comprendre, Serena Williams.
Serena, elle est très indépendante, c'est un modèle pour tout le monde, elle a gagné beaucoup et elle joue et elle a une bébé. Yeah, so I think it's motivating. On ressemble parce qu'elle aussi, she's a fighter.
Vous êtes
oui,
une combattante?
Oui. Elle est bien physiquement, mais quand tu la vois, tu crois qu'elle ne bouge pas. Mais elle est... Yes, I think we're similar.
Qu'est-ce qui vous motive vraiment à continuer à travailler? Parce que c'est difficile comme une carrière de tennis.
Oui, c'est difficile, mais je vais être top 10, donc je m'entraîne pour ça.
Il n'y a pas beaucoup d'Africaines sur le circuit, on le voit. Hein. Ça vous motive aussi d'être quelque part une des premières, surtout au Burundi?
Oui, ça me motive aussi, parce que j'ai la chance pour jouer de grands tournois et représente l'Afrique parce qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains ici. Je vais motiver les autres filles en Afrique de jouer au tennis.
Pour être vous-même un exemple et un modèle pour les autres.
Même plus fort, si c'est possible.
Et oui, la conscience de représenter l'Afrique ici à Roland-Garros, à Danaïmana, la Burundaise, peut-être un jour dans le grand tableau, et qui sait, Christophe, face à Serena Williams, pourquoi pas.
C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Merci beaucoup Frédéric Suto à Roland-Garros. Et Mondial Sport, clap de fin, merci à Fabrice Violet pour la réalisation. Dans un instant, 24 heures en France, bonne fin de soirée à tous.